Le MacBook Pro 16 pouces est arrivé, il dispose d'un écran plus grand, d'un nouveau clavier, de dernière carte graphique d'AMD plus puissante et d'une batterie de 100 watts. Bref, que vaut le nouveau fleuron des ordi portables d'Apple? Quels sont ses manques? La pomme a-t-elle enfin écouté ses utilisateurs pro? Débat! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ERLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle que vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemac.com, mais également sur notre app mobile iOS ERLM pour nous regarder sur iPhone, iPad et Apple TV. Vous nous retrouvez également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcast, mais également une version audio pour le jogging le dimanche matin sur iTunes, Podcast, sur Spotify, Deezer et TuneIn, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau pour nous parler du MacBook Pro 16 pouces. Regardez, il vient d'arriver, il est juste à côté de moi, il est de toute beauté. Stéphane Zibi de Ionis X, bonjour Stéphane.
Bonjour Olivier,
tu as commandé ton MacBook Pro 16 pouces?
Oui, il va arriver demain.
Incessamment sous peu.
Demain, je pense, voilà.
Bon, mais tu as pu quand même, débriefer auparavant. En plateau également, à mes côtés, Laurent Pantanache, la voix dont on refait le Mac, et Dixbrain. Bonjour Laurent.
Bonjour Olivier, bonjour, on refait le Mac.
Vas-y, fais un peu dans les graves pour voir.
C'est très grave aujourd'hui.
Non, c'est très grave, d'accord.
La situation est grave.
La situation est grave également pour celui qui était en duplex, puisque c'est son anniversaire, en duplex de ses alpages et de ses montagnes, déjà enneigé, Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier, et happy birthday.
Mais salut Olivier, ben, merci beaucoup.
Alors ça te fait quel âge?
Un petit peu moins que toi.
Beaucoup moins.
Wow, c'est agréable.
Alors quoi, j'ai pas encore la quarantaine, je suis encore un jeune moi.
Bah moi je viens juste de passer la quarantaine, on dira ça. Hein? En duplex, celui qui vient tout juste également de passer la quarantaine, puisqu'il ne vieillit jamais grâce à son cryptage. Il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué, bonjour Monsieur X. Il y a un nouveau cryptage cette semaine.
Bah oui, un cryptage en forme d'hexagone, un petit peu comme le fond qu'il y a dans le studio. Et puis pas trop vite sur l'actualité avec le MacBook Pro 16 pouces, Olivier, parce que mon actualité à moi, c'est les nouveaux AirPods Pro. Ils sont sortis il y a 3 semaines et je n'en ai toujours pas acheté.
Bon.
Je tiens bon.
On enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse bien sûr à la question que l'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Regardez la question. Quelle avancée préférez-vous sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces? Vous aviez 4 réponses possibles. Vous étiez 42% à répondre l'abandon du clavier papillon. On va en parler longuement aujourd'hui. Un SSD jusqu'à 8 Tera de stockage sur ce MacBook Pro 16 pouces, 18%. L'écran de 16 pouces, comme son nom l'indique, 33%. Et enfin, 7% à souligner la nouvelle Touch Bar. En résumé, que peut-on dire, messieurs, si ce n'est qu'Apple semble avoir arrêté de fermer les yeux sur les problèmes de clavier papillon, hein, qui sont récurrents depuis l'arrivée du MacBook Pro Touch Bar. Maintenant, il y a même le MacBook, il y a presque 4 ans en même temps que l'Apple Watch. Ça inspire une réaction de Loïc Van Lien sur Twitter. Regardez, je n'ai eu personnellement jamais eu de soucis à j'ai un MacBook Pro 13 pouces de 2017. Le clavier est bruyant quand on écrit, mais j'ai jamais eu de problème avec des touches qui ne fonctionnaient plus ou autre. Je crois que certaines personnes ne prennent tout simplement pas assez soin des choses. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord. On va en discuter ensemble. Un avis qui n'est pas partagé par Sébastien, toujours sur Twitter. Regardez. MacBook Pro 2017, la touche espace se bloquait aléatoirement. Et moi, j'ai le même problème sur ce MacBook Pro qui est devant moi. Et c'est la dernière génération avec les touches, avec le caoutchouc. Et une fois sur deux ou une fois sur trois, la barre espace que je viens d'appuyer, elle ne fonctionne pas. Alors, pour les départager, nous avons réalisé un second sondage sur le compte Twitter dont on fait le Mac. Regardez, on vous a posé la question, possédez-vous un MacBook Pro ou MacBook? Y avez-vous rencontré des problèmes de clavier papillon? Et vous étiez quand même 33% à répondre oui, contre 67% à répondre non. Donc un bon tiers qui ont rencontré beaucoup de soucis, c'est beaucoup. Est-ce qu'en plateau, vous avez eu ce type de problème? On commence avec Stéphane, toi qui as adopté le MacBook dès qu'il est sorti, hein, et c'est le premier ordinateur d'Apple à avoir adopté cette architecture de clavier.
Oui, et j'ai eu immédiatement des problèmes. Comme... Alors, qu'on prenne pas soin des choses, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on mange un sandwich dessus ?
J'imagine que c'est ça. C'est ce que dit Apple, en gros.
Oui,
hein,
oui. En gros, c'est toujours des problèmes des utilisateurs quand on a un problème de conception. Mais là, en l'occurrence, on mange pas des sandwichs sur un appareil qui nous a coûté quand même un peu d'argent.
Quand le MacBook, quand il est sorti, il coûtait très cher.
Et en plus, j'avais pris la version la plus forte parce que la configuration de base était vraiment minable. Mais en fait, je reviens sur le premier sondage également. Quand on veut acheter un nouvel ordinateur, il ne faut pas qu'une seule fonctionnalité qui puisse nous encourager à basculer pour changer. 33%, c'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est énorme. Pour Apple, ça ne correspond pas à la qualité.
Ah bah non, c'est même une catastrophe. Industriel, on peut dire.
33%, maxi.
Non, mais surtout, c'est le métier originel d'Apple, vendre des ordi. Quoi.
Alors, toi qui évolues dans le milieu de la tech depuis des années, il y a beaucoup de Mac, hein, tu travailles avec des Mac, est-ce que vous avez rencontré à ton boulot des problèmes de clavier papillon ?
Tout le monde.
Oui, d'accord.
Moi, j'adore le clavier papillon. Hein. Je trouve que finalement, assez fin et tout ça, je me suis habitué même au faible débattement de la touche, mais j'ai eu plein de problèmes. Et là où c'est frustrant, c'est que des problèmes de clavier, on en a eu sur tous les ordinateurs, même sur des gros claviers. Et effectivement, quand on mangeait, il y en a des fois, tu as un truc qui tombe, une miette, un objet, une épingle, quelque chose qui vient coincer. Bon, tu secouais ton clavier, tu arrives à le sortir. Là, moi, mon clavier, je peux plus faire le H, je peux plus faire les accents, je peux plus faire le A. C'est une fois sur deux qui fonctionne pas. Donc, on parlera un peu plus tard du programme, mais...
Alors, on a la chance d'avoir quasiment en duplex celui qui a rencontré le plus de problèmes à lui tout seul sur des claviers papillons, à savoir Didier Policani. Tu as eu toutes les générations de MacBook Pro, hein, et tu as rencontré à chaque fois des problèmes, Didier, quasiment.
Mais en fait, moi, il y a très peu de gens autour de moi qui n'ont pas eu le souci, clairement. Après, je pense qu'ils ont quand même réglé le problème petit à petit, c'est-à-dire sur les dernières générations, là, par exemple...
Par petite touche.
Oui, non, mais ceux qui ont du 2018 et du 2019, ils n'ont quasiment plus le problème autour de moi. Alors, il y en a encore qui ont des soucis.
Enfin, une fois, mais,
en fait, moi, ce qui m'a un peu attristé, je ne sais pas si tu as vu les interviews de Tim Cook hein, chez les YouTubers, etc., c'est plus la
Phil
réaction
Schiller,
d'Apple...
Phil Schiller,
et qui ne mentionne le problème. Pour lui, c'est vraiment circulé, il n'y a rien à voir. On a fait un clavier plus pro, je pense qu'on en reparlera après dans l'émission, mais je trouve que de ne pas assumer cette catastrophe, et d'autant qu'il propose quand même d'allonger la garantie de 4 ans, mais 4 ans, tu vois, moi j'en avais celui de Stéphane, tu vois, il date de 2015, il est quasiment au bout. Ils font quoi ces gens? Ils ont des claviers qu'il faut changer, ça coûte hyper cher, et surtout, le vrai défaut de conception, c'est que non seulement on ne peut pas changer les touches, mais surtout, il faut aller quasiment en Apple Store, où, là par exemple, j'ai une collègue là, qui a eu le problème 3 fois, et maintenant, elle l'a envoyé chez un réparateur agréé, mais c'est 2 semaines, 3 semaines d'immobilisation.
Il faut tout changer, c'est ça, pour expliquer. Il faut changer la coque, en fait.
Il faut changer tout. Il y a la batterie, le clavier, ce qu'on appelle le top case, en fait, qui tout est collé dessus. Du coup, tu as un nouveau clavier, c'est super cool, mais il faut quand même immobiliser ta machine. Et voilà, donc ça prend du temps. Et puis, il faut un Mac en attendant. Tu as le disque qui est soudé, donc tu ne peux pas le récupérer en attendant. Enfin, vraiment, ce n'est pas simple, en fait, pour les gens. Il y a beaucoup de gens, même, qui continuent à vivre avec ce clavier qui ne marche pas parce que c'est trop pénible à faire réparer. Je crois que c'est quand même aussi ça qui est.
Ou alors, il paye un clavier externe. Mais monsieur X, vous qui avez. Bien connu de l'intérieur Apple, Didier semblait regretter qu'il n'y ait pas vraiment eu d'excuses officielles d'Apple. C'est pas tellement le genre de la maison, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire profil bas en disant oui, il y a eu des problèmes et on fait table rase du passé, tout simplement, monsieur X.
Depuis quand des excuses chez Apple?
Et puis quoi encore?
Et puis quoi encore? Écoute, ça me rappelle, je le cite souvent cet exemple, hein, mais un des premiers MacBook qui s'appelait le MacBook Pro, d'ailleurs je crois Titanium, avec un processeur G4, ça rappellera des trucs aux anciens.
PowerBook,
pardon, ouais. Qui avait 2 défauts structurels. D'abord, le revêtement s'effaçait avec la sueur des mains. Donc, comme tu as les mains toujours posées près de ton clavier, le revêtement disparaissait. Et puis l'écran, boum, il y avait 3 lignes sur l'écran LCD qui disparaissaient sur un MacBook sur 2. Et on ne l'a quasiment jamais avoué quand j'étais chez Apple. Au mieux, on a changé les machines sans trop le dire. Donc Apple n'aime pas avoir des problèmes de qualité et Apple aime encore moins l'avouer. Ce qu'ils font mieux depuis quelques années, c'est qu'ils font des programmes de réparation en masse, un peu comme les rappels de voitures, et qu'ils assument le prix. Mais c'est le max que tu vas avoir chez eux. Et puis moi, je peux témoigner, hein, j'ai pas les nouveaux MacBook Pro, j'ai encore un MacBook Pro de 2015. Moi, j'achète des Macs pour les amener jusqu'au bout 4-5 ans, autrement, j'achèterais pas le Mac vu le prix. Mais ma fille en a un, ma fille aînée, j'ai tout changé dessus. Hein, 3 fois, 3 claviers, la carte mère, 2 fois le stockage, 1 fois l'écran. Donc pour moi, c'est pas que le clavier, c'est toute cette génération qui était un petit peu en faiblesse.
Donc, monsieur, on est d'accord, on va arrêter de se voiler la face. Il y avait vraiment un vrai problème de clavier récurrent, un vrai accident industriel. Et ce qui est plutôt bizarre, tu parlais, Didier, à l'instant, des interviews accordées par Phil Schiller à des youtubeurs. Il semble prendre la direction et de dire que ce clavier est réservé aux pros. Quand on voit les problèmes qu'il continue à avoir, c'est assez étonnant. On ose y croire, Didier.
Non, je pense que ça va arriver sur toute la gamme. Alors après, c'est vrai que peut-être que les derniers modèles, hein, 2019, peut-être qu'ils ont quasiment plus de soucis. Là, c'est difficile d'avoir beaucoup de retours, hein, puisqu'on n'a pas de statistiques ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, je pense que ça va arriver sur les prochains 13 pouces. Et puis après, le MacBook Air, c'est la même chose. Je vois pas comment ils pourraient le mettre sur le 13 pouces, puis pas sur le MacBook Air. Moi, pour moi, c'est de toute façon, il y a pas tellement le choix. Là, on n'a plus de possibilité de faire machine arrière maintenant. Il faut qu'ils assument leur connerie, quoi.
Alors quelles sont les alternatives que peut faire aujourd'hui un possesseur de MacBook ou MacBook Pro qui a un problème concrètement, Laurent?
Il va participer au programme de réparation du clavier pour MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Et en fait, ce sont 16 modèles qui sont concernés par des problèmes de clavier chez Apple. Donc ça commence du MacBook Retina 12 pouces début 2015.
Donc celui que tu as adopté tout de suite.
Jusqu'au MacBook Pro 15 pouces de 2019. 16 modèles différents.
Ouais,
tout c'est pas. Ouais, mais je veux dire, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est l'intégralité du parc sur 4 années, quoi.
Et ce qui est écrit, j'adore, parce que quand Apple a déterminé qu'un faible pourcentage de claviers de certains modèles.
Oui, bah oui.
Alors qu'en bas, il y a écrit tous les modèles, donc en gros, il y a une antinomie. Franchement,
je peux ajouter quelque chose.
Oui, monsieur.
Olivier. Écoute, j'ai été très critique il y a quelques instants en disant sur le MacBook Pro de ma fille, 3 claviers, 2 fois le stockage, la carte mère et une fois l'écran.
Ouais, la totale.
C'est vrai. Maintenant, je voudrais donner quand même un compliment et rendre à Apple ce qu'appartient à Apple. Ces multiples réparations qui ont été faites chez des revendeurs agréés et dans des Apple Store m'ont coûté très exactement 0 euros.
Mais intérêt.
0 centime. Donc c'est juste la normalité, mais avec une qualité de service extrêmement bonne. Donc au moins là-dessus, ils ont été à niveau.
Alors la question, c'est de savoir si ce clavier va se généraliser au reste de la gamme. A priori, le MacBook Air, il est suffisamment épais pour l'adopter. Hein. Vous verrez que de l'extérieur, on ne voit pas vraiment la différence. On va revenir au MacBook Pro 16 pouces dans un instant. On se posait la question, Stéphane, pourquoi Apple avait arrêté le MacBook 12 pouces que tu aimais tant? Et quand on voit l'extrême finesse de ce modèle, on se dit bien, là, ça aurait été compliqué. On comprend pourquoi ils l'ont arrêté. On ne sait pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est certainement une des raisons.
C'est une réponse, ça, c'est sûr. Mais après, est-ce que le format de l'écran, c'est le format de l'écran qui est 12 pouces? Qu'est-ce que c'est ça avec lequel on peut mieux travailler? Puisque bon, le MacBook 12 pouces, finalement, c'est un iPad avec clavier. Quoi,
ouais. Donc... Il y a un autre problème qu'on nous signale sur Twitter. C'est Erch sur Twitter qui a détecté un autre problème récurrent sur son MacBook Pro de 2007, de 2016. Pas de problème de clavier sur MacBook Pro 2016, mais un bruit de dilatation au niveau de la charnière quand le MacBook Pro chauffe. Problème connu, mais jamais eu de programme de réparation chez Apple. C'est pas cool pour la vente d'occasion. Ce que je trouve intéressant, Didier, je sais pas si tu as rencontré ce problème, mais au-delà, le mot magique, c'est vente d'occasion. La valeur ajoutée d'un Mac, c'est que sa valeur dure longtemps et qu'on peut le revendre assez facilement. Là, on peut se poser la question légitimement, que vont devenir... Il est plus difficile de revendre un modèle avec clavier papillon aujourd'hui, Didier.
Oui, mais comme le disait M. X, en fait, moi, les problèmes que j'ai eus, j'ai eu le clavier une ou deux fois, mais j'ai surtout eu d'autres problèmes, qui étaient effectivement la carte mère, qui était aussi le stockage. Et il y a un vrai problème de fiabilité, j'ai l'impression, vraiment, sur cette génération de produits. Et c'est vrai qu'ils sont difficiles à revendre, et ils sont d'autant plus difficiles que, là, je ne sais pas si tu as vu, mais quand même, tous les 6 mois, on a une nouvelle mise à jour depuis à peu près 1 an et demi. Et c'est encore plus compliqué, puisqu'ils ont baissé énormément le prix du stockage. Donc, tu rajoutes ça, le clavier à problème. En plus, tu sais pas si le mec en face l'a fait changer ou pas, si t'as la dernière génération ou pas. T'as en plus la garantie qui va arriver au bout assez vite. Et du coup, c'est vrai que c'est des machines qui ont perdu énormément de valeur, et d'autant que c'était quand même les MacBook Pro de mémoire, quand même les plus chers jamais commercialisés. Donc c'est vrai que ceux qui ont acheté là, entre 2016 et 2019, ils ont quand même les boules, hein, à ce niveau-là. Et la force du Mac, c'était qu'on pouvait toujours revendre quand même ces machines assez chères. Et là, t'as des machines qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur en même pas un an, quoi.
Laurent, pour conclure sur les claviers.
En fait, non, c'est pas sur le clavier, c'est sur le programme d'échange qui est intéressant, parce que ce que M. X disait, c'est j'ai changé trois fois le clavier. Ça veut dire que le changement ne résout pas le problème. Hein. Mmh. C'est juste que tu te retrouves avec un clavier neuf, donc souvent de la même génération, c'est la même conception, et donc tu peux te retrouver. Il y a une autre information qui est intéressante, parce que j'ai ce problème, moi, qui est récurrent depuis plusieurs mois, et à chaque fois, je me dis, est-ce que je vais y aller, pas y aller. Alors, je suis un grand fan de mon iPad, mais j'ai besoin pour deux, trois applications de mon Mac, et du coup, je le fais pas. En préparant l'émission, je me suis rendu compte d'un point, je trouve assez intéressant, c'est qu'on ne peut plus prendre de rendez-vous dans les Apple Store. Il n'y a aucun Apple Store parisien qui accepte de prendre les rendez-vous. Alors qu'en mois de septembre, ils acceptaient les rendez-vous. Donc je ne sais pas si c'est la préparation de la période de Noël qui arrive, ou si finalement la quantité de claviers est importante et du coup ils délèguent à des centres agréés. Mais il n'est plus possible.
Ils ont toujours délégué à des centres agrés.
Oui, mais on pouvait prendre rendez-vous dans l'Apple Store au mois de septembre.
Ouais, ce que je conseille de faire, c'est prendre rendez-vous à l'Apple Store en ligne. Et il vous dirige vers soit un Apple Store proche de chez vous, soit vers un revendeur agréé qui a bien sûr tout le savoir-faire.
Ça en ligne, hein. Ouais. On vient de faire le test pour montrer en ligne.
Ouais, ça ne marche pas.
Il
n'y
a plus de possibilité.
Bon, écoute. Alors on va s'intéresser, si tu veux bien, à ce nouveau clavier. Que vaut-il vraiment ? Est-il vraiment nouveau ? On y répond tout de suite. Clavier pas si nouveau, point d'interrogation. Hein. iFixit, le célèbre site qui démonte tous les objets high-tech de la planète, l'a donc démonté. Et ce fameux Magic Keyboard, puisque c'est son nom, est un copier-coller du clavier des iMac. Hein. C'est bien ça, Didier ?
Bah oui, à tel point que tu peux même échanger les touches. Alors ça marche à peu près, parce que apparemment c'est pas exactement les mêmes. Elles sont un petit peu plus larges, apparemment, celles de
iFixit l'a fait, hein, comme on peut le voir.
Oui, bon, non, ça marche sur quelques touches, apparemment pas tout. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est le même mécanisme, c'est que tu peux surtout les démonter facilement. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, sur le clavier en tant que tel, tu vois, moi là, ça fait une petite semaine que je l'utilise. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit retour en arrière quand même par rapport à ce clavier papillon qui était, voilà, très fin, très très smart. On avait l'impression que c'était un petit peu plus futuriste. Là, c'est vrai que c'est un peu plus roots. Tu as les touches qui sont un peu plus épaisses. Mais ce que j'aime bien, c'est que globalement, je frappe mieux, je fais moins d'erreurs parce qu'elles sont aussi un petit peu plus espacées. Alors qu'avant, elles étaient très collées et j'écorchais souvent les touches adjacentes. Donc pour moi, c'est effectivement, si tu viens d'un MacBook Pro 2015, je pense que tu seras un petit peu moins perturbé quand tu passes au papillon. Mais quand tu passes du papillon à celui-là, tu te dis tiens, je retourne en arrière, mais finalement, je suis plus efficace et plus fiable. Donc voilà, au bilan, le bilan est quand même positif. Quoi.
Ouais, la course est un peu plus longue. Tu l'as dit, les entre les touches augmente. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, on en a fait vite l'essai tout à l'heure, c'est qu'il est beaucoup plus silencieux. Ça a été tout de suite les premières remarques hein, quand les MacBook Pro sont arrivés avec ces nouveaux claviers à ciseaux, papillons. Ils étaient très bruyants parce qu'on a gardé l'habitude de taper fort parce qu'il y avait une course plus longue. Et en fait, la course étant très, très, très courte, ils étaient assez bruyants. Donc voilà. Et puis, on l'a dit en préambule, les touches ici sur les côtés, les touches fléchées reprennent leur configuration en T inversé,
enfin.
Ce qui est quand même plus pratique pour se balader et plus logique. Le trackpad aussi, c'est plutôt une bonne surprise. Ça reste un vrai régal sur le MacBook Pro. Moi, j'aime beaucoup sur le 15 pouces et sur le 16 pouces.
Ouais,
le grand trackpad, Didier.
Oui, moi j'aime bien. Et puis comme le disait iFixit, c'est aussi une partie qui est démontable. Donc voilà, autant le clavier, tu peux enlever les touches, mais il reste quand même collé au top case. Autant là, si tu as un problème de trackpad, on peut te l'échanger. Mais c'est vrai que ce trackpad, une fois que tu as goûté, quand tu reviens aux anciens MacBook Pro, c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis, c'est pas possible, comment je faisais avant avec cette petite surface.
Ouais. Pour revenir au clavier en un mot, messieurs, vous avez essayé vite fait tout à l'heure. Votre sentiment, tout simplement, c'est le plus confortable. Vous préférez le ciseau, vous préférez le papillon. Votre avis ?
Alors moi, je suis allé, j'ai passé près une grosse demi-heure, presque trois quarts d'heure en Apple Store pour le tester. Moi, je suis très content du retour de la touche échappe, hein, qui au moins on la sent. Quoi. J'ai avant plusieurs fois le nombre de fois où j'ai tapé sur échappe.
Il n'est plus intégré au touch bar, mais on en parle dans un instant.
Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a un tout petit écart. L'écart entre les touches est un petit peu plus grand, mais c'est vraiment infime, mais ça se ressent. Et la course, je m'attendais à ce que la course soit beaucoup plus grande et finalement, elle est un petit peu plus grande, mais
oui,
c'est moins que la concurrence PC, ouais. Qui a voulu copier Apple et qui finalement a des courses qui restent grandes. Donc ça reste, je pense que c'est un bon compromis.
Ouais, c'est pas la course qu'il y avait sur les générations précédentes de MacBook Pro avant
Exactement.
Que la touch bar arrive. Brièvement, Stéphane ?
Moi, tout ce que j'ai vu, pour l'instant, ça semble positif sera qu'à travers l'usage pendant quelques semaines où on va vraiment se rendre compte d'une différence. Mais en tout cas, moi, c'est le format de 16 pouces qui m'interpelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller sur du 16-14
dans le futur
plutôt que du 13-15 Est-ce que bon,
il y a une question là-dessus, on essaiera d'y
répondre. Justement, mais voilà, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est le format qui m'intéresse, savoir.
Par rapport à ce que disait Didier tout à l'heure sur le fait qu'il y a des problèmes récurrents, parce que la machine en termes de concession était assez extrême hein, en termes de refroidissement, voilà. Ils ont perdu quelques millimètres en épaisseur, mais peut-être que ça vaut le coup hein, sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est sur le long terme qu'on verra s'il y a des retours clients ou pas. Après, clavier place à présent au design qui évolue, lui, vous allez voir beaucoup plus à la marge. Design du neuf avec du vieux, la différence, c'est vrai, quand on l'ouvre, ne saute pas vraiment aux yeux si l'on pose un 16 pouces à côté d'un 15 pouces. Les dimensions sont assez proches. Il est un peu plus lourd. Moi, j'ai noté, Didier, 2 kg contre 1,3 pour le, 1,8 pardon, pour le 15 pouces. Il est également un peu plus large et un peu plus profond. Hein, c'est... Voilà, 8,6 mm de plus et 5,2 mm de plus en largeur et en profondeur. Et en fait, on arrive à les distinguer, messieurs, grâce à la touche barre quand j'ai l'ouvert pour la première fois. C'est-à-dire, effectivement, il y a la touche Escape dont tu parlais. Et puis surtout, l'arrivée du Touch ID, comme sur le MacBook Air, donc il n'est plus intégré sur la touch barre. Parce que moi, je ne sais pas si vous aviez le même problème, mais chaque fois que je tape avec ce clavier ici sur mon MacBook 13 pouces, j'ai tendance à faire des erreurs de frappe et à lancer Siri.
On lance Siri tout le temps. Ça améliore pas Siri pour autant.
Non, Siri, malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter.
Moi, j'ai retiré Siri de la touch bar, mais du coup, j'ai le bouton de la suppression du volume et je passe mon temps à activer et désactiver le volume. Voilà. Donc, pareil.
Monsieur X, cette avancée sur la touch bar, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle est bienvenue? C'est pas un hasard, encore une fois, qu'elle soit coupée en trois morceaux.
Bah écoute, je suis un peu un vieux con sur le sujet. Moi, j'ai jamais aimé la touch bar à un tel point hein, qu'il va falloir que je change mon MacBook Pro l'année prochaine et que je suis en train de me demander si la première fois, je ne vais pas prendre un MacBook Air qui est maintenant le seul modèle dans le line-up qui n'a pas cette touch bar simplement parce que j'en ai pas utilité. Quoi. Alors, c'est pas utilité pour la touche Apple Pay qui posait des problèmes, le lancement de Siri aussi, mais même pour faire du montage vidéo. Tu sais, maintenant, moi, j'utilise des softs qui bossent pour moi, type le soft de chez GoPro. Donc, cette fonctionnalité dont on pense hein, qu'elle fait 500€ dans le prix du MacBook Pro que tu vas acheter,
ouais, c'est
moi, m'intéresse pas. Et je suis au regret de dire aujourd'hui, à moins que je me trompe, qu'il n'y a que des modèles de MacBook Pro 13 et 16 pouces qui ont cette touch bar, alors qu'elle n'a pas été, en termes d'usage, totalement plébiscitée. Donc, j'espère qu'ils reviendront à MacBook Pro sans. En plus, je trouve ça moche, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein.
Ils avaient dit que c'était la révolution de la machine à écrire, quoi, du clavier, etc. Pour l'instant, ça fait un pchit. Hein.
Oui, et puis surtout, le problème, c'est qu'elle reste cantonnée, comme tu l'as dit, Monsieur X, aux gammes MacBook Pro 13 et 16. Pour pouvoir démocratiser un usage et qu'elle soit vraiment populaire, il faut le mettre sur toute la gamme. Donc, ils auraient dû le mettre sur le MacBook Air. Et puis, il faut qu'il arrive sur les ordinateurs de bureau, hein, le Mac Mini, l'iMac et sur le Macro. Ce qui est compliqué, vu la techno.
Et potentiellement sur les claviers externes. Parce que là, ça aura un vrai intérêt.
Ouais. Et c'est compliqué. Hein, surtout,
non, je pense que ça va
être là, il va falloir un fil hein, pour le clavier externe. Ouais. On a une réaction de Runman sur Twitter concernant le design et particulièrement sur la connectique. Réaction sévère d'ailleurs. Le MacBook Pro 16 pouces n'a de pro que le nom. Pas assez de connectique pour l'espace disponible. Pas de Wi-Fi 6, écran un peu plus grand. Pas de 4K, pas de Face ID. Touch bar, on y revient, toujours inutile. Retour à l'ancien clavier, une touche échappe. Pas de recharge sans fil inversé. Là, il y va quand même un peu loin pour ses iPhones et ses AirPods Pro. Il ne faut pas trop non plus en demander. Hein. Faut pas en faire un inventaire.
Il a raison.
Après, mais il a raison sur la connectique de l'ordinateur qui reste identique à celle de la génération précédente. 4 portes en Double 3 pour des pros, hein, ce n'est pas suffisant. Quand on fait de la vidéo, vous avez des disques durs dans tous les sens. Des écrans Thunderbolt 3, enfin bref, il faut encore acheter un dock, c'est des sous en plus, Laurent.
Ouais, et il y a un autre problème pour moi, c'est que les ports Apple, on parle très peu, mais les ports USB-C et Thunderbolt d'Apple ne fixent mal les prises. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes, ils branchent leur disque dur et en fait ça se débranche. C'est-à-dire que
ça s'use un petit peu et ça clipse plus.
Exactement. Alors que tu ne le trouves pas sur d'autres produits.
Côté écran, c'est pas forcément flagrant l'espace qu'on en gagne. Les bordures, on s'attendait à des bordures beaucoup plus affinées en passant de 15 à 16 pouces. C'est moins poussé que sur l'iPad ou sur l'iPhone, hein, Didier. On peut même se dire si Apple n'aurait pas pu glisser, bon, même s'ils ont gagné à peu près, regardez sur le côté ici, 25% je crois de mémoire sur la bordure et en haut, 33%. Non, c'est l'inverse, 30% sur le côté et 25% en haut. Mais elles sont encore bien présentes, beaucoup plus que sur un iPad ou un iPhone, Didier. On pourrait même se dire qu'ils auraient pu glisser carrément un écran 17 pouces sans bordure. Mais
en fait, il y a un peu de déception, parce qu'on a beaucoup passé de temps sur en fait, ce qu'on a retrouvé d'avant, tu vois, la touche Escape, le clavier, qui en fait devrait être des trucs qui n'auraient jamais dû partir, même la touch bar peut-être jamais arrivée. Mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, cette année, il n'y a quand même eu pas grand-chose, et moi j'ai l'impression qu'ils en gardent sous la pédale pour un modèle qui arrivera sans doute au printemps, ou peut-être à WWDC. Effectivement, avec un écran qui a un petit, une meilleure définition, je crois que l'iPad Pro de 12 pouces, il a plus de pixels que cet écran, ce qui est quand même fou, hein, pour faire du montage vidéo, tu te dis, j'aurais quand même le top du top. Pas de Wi-Fi 6, alors qu'on l'a mis sur l'iPhone là, il y a quelques mois. Effectivement, Face ID, ce serait cool sur un ordinateur. Moi, sur la connectique, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a Phil Schiller qui était interviewé sur l'histoire de la carte SD, mais tout le monde utilise des cartes SD. On les utilisera pendant 10 ans. C'est comme le HDMI, ça s'en ira jamais. Donc, le fait de l'avoir enlevé n'a aucun sens, à part t'obliger effectivement à prendre des adaptateurs. Et en plus, j'ai adoré une phrase de Phil Schiller qui disait que les gens se sont bien habitués à l'USB-C. Mais c'est normal, on n'a plus le choix.
C'est l'auto-persuasion, ça s'appelle.
C'est ça.
Oui, oui, non, mais c'est un discours extrêmement difficile à entendre, je trouve, pour les gens qui utilisent ces machines au quotidien. Je terminerai juste par un truc. Moi, je trouve que le form factor, alors cette année, on a l'iPhone qui a grossi pour mettre de la batterie. Ce MacBook Pro est quand même plus gros. C'est-à-dire, maintenant, je le sors de mon sac là depuis une semaine, et ben, c'est plus lourd. 200 grammes, c'est pas rien, c'est 10% quand même du poids. Et puis, même l'épaisseur, elle est vachement plus épaisse. Et alors, c'est bon pour le côté thermique, etc. Ouais. L'écran, on te dit un demi-pouce de plus, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils arrivent à garder le form factor d'avant. Évidemment, avec les contraintes de dissipation thermique, ça paraissait quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est Apple aussi de trouver un petit peu le bon ajustement. Mais ils auraient quand même pu... Voilà, je pense qu'il y a quelque chose en préparation, moi, très prochainement.
Monsieur X, on a l'impression, pour rebondir sur ce que disait Didier, que c'est un peu une machine de transition, qu'ils ont enfin reçu le message, hein, tu sais comment fonctionne en interne Apple, Monsieur X, et qu'ils ont modifié en conséquence, mais des modifications qui ne remettent pas vraiment en cause les chaînes de prod, rajouter des ports... Thunderbolt, concrètement, il faut changer le châssis, il faut modifier la chaîne de prod. Changer un clavier, c'est plus facile.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que les choix, ils sont faits en conscience. En fait, des gens qui ont besoin de beaucoup plus de connectique, comme un certain nombre de personnes là qui nous regardent, ou comme le mentionnait Didier, et qui veulent une machine en fait, qui aurait toutes les possibilités, je pense que parmi les acheteurs de MacBook Pro en général et de MacBook Pro 16 en particulier, ça concerne 5-10% des utilisateurs. Donc Apple, il fait une machine pour les 80% des gens qui vont acheter la machine. Peu de connectique, ça permet de plus de fiabilité, un coût moindre, marrez-vous, et puis d'avoir une machine sur laquelle
il y a moins de variations
possibles. Si vraiment Didier, parce qu'il en a un usage, ou certains monteurs, parce qu'ils en ont un usage, veulent absolument mettre une carte SD ou 12 disques durs chaînés USB-C, et ben ils achètent un hub externe. Et puis je pense qu'on va voir, les changements par contre du Mac, enfin introduits sur le MacBook Pro 16 pouces, aller bien sûr sur le MacBook Pro 13 après. Mais n'espérez pas trop, hein. Je pense que chez Apple, on est habitué maintenant, ça évolue doucement, et la machine super, super, super haut de gamme, enfin, en tous les cas, avec plein de possibilités ouvertes, c'est fini.
Ouais. Juste un mot sur l'écran, effectivement, tu as raison, Didier, donc comme notre Twitter, c'est pas une dalle 4K, mais c'est comme une dalle Retina de 3072 par 1920 pixels, 226 ppp, donc c'est moins... pour la résolution Retina, moins que les iPads, donc on peut faire mieux. Une luminosité de 500 nits, par contre, sa force, toujours, c'est la calibration, hein, une fidélité des couleurs qui est vraiment à toute épreuve. Donc si vous avez travaillé dans Photoshop ou Final Cut, c'est vraiment la dalle qu'il vous faut, mais ça reste une dalle IPS, c'est pas l'OLED, hein, qui commence à arriver chez certains constructeurs. On va voir si Apple va prendre le même virage pour les Mac qu'elle l'a pris pour l'iPhone, qui a adopté depuis longtemps maintenant l'OLED. Allez, on continue à dérouler les avancées de ce MacBook Pro 16 pouces, mais d'abord, primo, place au busomètre. Didier, quelles sont les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever ?
Eh bien déjà, Olivier, une keynote surprise !
C'est pas vrai !
Mais oui,
c'est ton cadeau d'anniversaire, voilà. Merci.
Non, mais plus personne n'y croyait, cette keynote de fin d'année, finalement. 2 décembre.
Ouais, alors c'est quoi cette keynote ?
On est censé être devant une espèce de cérémonie, hein, moi je dirais une espèce d'App Store Awards, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. où ils devraient récompenser des éditeurs, des développeurs, puisqu'apparemment il y en a un certain nombre qui ont été invités donc à New York, hein, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est là-bas que ça se déroule. Donc voilà, c'est un, ils n'ont pas dit plus que ça, on n'en sait pas tellement plus, mais je pense que c'est un moyen aussi peut-être de mettre en avant aussi des éditeurs qui bossent bien et puis qui ont fait des belles réalisations cette année. C'est un petit peu différent des Apple Design Awards qu'il y a la WWDC, qui sont vraiment plus axés design, justement.
Oui, c'est plus confidentiel, dirons-nous. Et nous serons naturellement en direct le 2 décembre sur On Refait le Mac pour suivre en direct dans cette keynote. J'espère qu'il y aura des surprises, parce que début décembre, vous savez... l'autre info qui est liée à celle-ci, c'est que le Mac Pro arrive. Alors peut-être qu'on en profitera pour nous dévoiler le Mac Pro en même temps, on peut toujours rêver. Deuxième rumeur, Didier, parce que cette fois-ci c'est une rumeur.
Alors, tu vois, on se plaignait de l'absence de Face ID sur les Mac, mais il y a Apple qui dépose des brevets régulièrement, il y en a un pour Face ID sur l'Apple Watch, ce qui pourrait être pratique, hein, parce que je ne sais pas si toi tu te retrouves dans cette situation-là souvent, où ton Apple Watch est verrouillé, alors il faut que tu déverrouilles soit ton téléphone, soit que tu rentres ton code. Donc voilà, un système Face ID, ça pourrait être assez intéressant.
Ouais, je suis perplexe, mais enfin bref. Troisième rumeur.
Donc, alors ça, c'est une rumeur qui vient de notre ami Ming-Chin Kuo, qui nous prévoit donc l'arrivée du clavier ciseau sur le 13 pouces donc en 2020, donc pas tout de suite, c'est-à-dire que voilà, tous les gens qui vont acheter là des MacBook 13 pouces à Noël.
Attendez.
Bon, ouais, attendez. Hein.
Alors regarde, on a une question sur Twitter de Damien Dupont, alias Archisus sur Twitter. Peut-on espérer un MacBook Pro 14 pouces? Ce serait assez logique. Du coup, si tu adoptes le clavier 13, du 16 sur le 13, eh bien, tu adoptes aussi l'écran, tu peux gagner un pouce. On pourrait imaginer ça, Laurent.
On pourrait imaginer ça. Moi, mon rêve absolu serait, quoi qu'il en soit, un 12 pouces.
Un 12 pouces avec un écran de 13 pouces.
Ouais, avec un 12 pouces. Moi, mon Mac préféré de tous les temps, c'est mon PowerBook que j'ai 4. 12 pouces
de petits ordinateurs.
Non, mais c'était génial, c'était puissant, ça marchait bien, c'était increvable. Je l'ai traîné partout dans le monde, je me suis cartonné en scooter avec, il était plié, il fonctionnait encore. Ouais. Un truc.
Il n'avait pas de clavier papillon.
Non, il avait ce clavier gris là, un peu à montagne en M.
Ça, c'est grâce à Monsieur X, c'est lui qui est. Voilà,
c'était lui, c'était son commande à l'époque.
Voilà. Quatrième rumeur, non, info cette fois-ci, Didier.
Oui, alors on ne sait pas si ça va se faire ou pas, mais tu sais que la NFC, donc la petite puce NFC de l'iPhone, elle est fermée. Hein, si par exemple, tu es une banque, tu ne peux pas l'utiliser directement, il faut passer par wallet d'Apple. Mais en Allemagne, apparemment, Apple pourrait être forcé d'ouvrir sa NFC donc, aux autres services de paiement. Donc si c'est le cas, je pense que ça embêtera bien Apple, parce que c'était. On justifie ça par des problèmes de sécurité hein, chez Apple, mais c'est vrai que ça pose aussi des problèmes de concurrence, évidemment.
Si c'est le cas, effectivement, il y a le. Conseil régional d'Île-de-France avec Valérie Pécresse qui a demandé sur Twitter à Tim Cook d'ouvrir aussi la NFC pour qu'on puisse utiliser l'iPhone pour payer nos transports en commun, ce qui est déjà possible.
Navigo, quoi, tout simplement.
Le Space Navigo est déjà disponible sur Android
et pas sur l'iPhone,
donc ce serait quand même une avancée.
Oui, ils sont un peu hypocrites là-dessus,
ouais,
ils ont
sûr.
Pris techno hyper fermé. Il faut aussi certains opérateurs, ça marche pas avec tous, qu'il faut pouvoir lire
Orange,
la carte SIM.
Il faut être avec Orange et sur Samsung.
Il y a des pays qui ont réussi à faire des trucs qui
exactement.
Marchent avec Apple. Hein,
donc oui, exactement. Voilà. Attention, c'est ce que je voulais rajouter. Dans l'iPhone, quand on descend dans les menus, on voit bien qu'il y a le pass transport qui est disponible. Mm. Et je crois que c'est Singapour l'a fait. Mm. Je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas eu le temps de vérifier, mais je voulais le faire. Il me semble que Londres avec l'Oyster a réussi à faire quelque chose. Il me semble que New York l'a fait. Donc je pense qu'il y a une guéguerre et peut-être une histoire de sous entre Apple et la région Île-de-France.
Là, ce serait pas l'intérêt des utilisateurs.
Ouais,
bon, c'est des problèmes d'appel d'offres aussi. Hein.
Enfin, en tout cas, c'est intéressant que Apple soit forcé à quelque chose.
Ouais, mais il va falloir bien qu'il s'ouvre un jour ou l'autre parce qu'il y a quand même quelques millions d'utilisateurs d'iPhone en région parisienne. Ils pourraient utiliser leur iPhone pour simplement prendre le train ou le métro.
On
dernière
arrête à prendre voiture.
Ouais, bah, des fois de voiture, ça devient de plus en plus compliqué en ce moment. Dernière rumeur, Didier.
Alors, on n'a pas beaucoup parlé encore d'Apple TV+, hein, mais peut-être tu feras une émission là-dessus. En tout
on devait
cas,
la faire cette semaine, mais l'actu du MacBook Pro nous a rattrapés.
Et tant mieux, comme ça, on regardera un petit peu toutes les séries. Là, ça commence à devenir un petit peu intéressant sur certaines séries. Et Apple TV+ pourrait générer 25 milliards de dollars en 2025 pour Apple.
Attends, ça me saute dans leur ligne. 40 milliards en 2040.
Ouais.
50, enfin bon, c'est un peu au doigt mouillé.
Voilà, bon, c'est de l'analyse, c'est de la prévision, on verra.
D'ailleurs, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés cette semaine sur News Plus, là, qui avait été lancé avec 200 000 utilisateurs.
Le site de...
pour les abonnements...
Presse, ouais. Presse, le service en ligne d'Apple presse.
Ils ont annoncé 200 000 utilisateurs au départ.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis. Combien il y en a aujourd'hui ?
Je ne sais pas.
200 000. 200 000. Donc, en gros,
ils sont très fidèles.
Non, mais ils sont soit très fidèles, soit il y a un renouvellement constant. Et en fait, moi, ce que j'espère, que pendant la petite sauterie du 2 décembre, peut-être qu'ils ont annoncé, peut-être, enfin,
le bundle
pour Noël. Et là, ce serait vraiment là.
Donc,
enfin,
les 25 millions, tu veux dire quoi,
tu les auras.
De suite.
Ouais. Une offre commune, groupée, où il y aurait iCloud, Apple TV+, Apple Music.
Musique, tout.
Ouais, mais souvenez-vous que l'Union Européenne veille. Hein,
je sais, mais.
Mais
en fait,
si tu fais ça, Spotify, il est mort, hein.
Peut-être.
Si tu offres Apple Music avec iCloud, c'est ça. Et je suis pas sûr. Aux États-Unis, ça peut peut-être passer, mais en Europe, j'ai peur que.
Je sais. Bon,
peut-être qu'ils sortiront peut-être Apple Music du lot, mais.
Non, mais là.
Il faut oublier qu'il y a une enquête en ce moment et que Apple n'est de l'Union européenne et qu'ils sont pas forcément en bonne posture. Croyez-moi.
Là, cette histoire de chiffres là, c'est pour ça que pour te dire.
Le 2 décembre.
Les services d'Apple qui sont censés être son avenir. Et la sorte est quand même une sorte de, comme les ventes d'iPhone diminuent tout le temps, je pense qu'ils réfléchissent un petit peu.
Allez, retour au MacBook Pro 16 pouces, on va s'intéresser cette fois-ci à ce qu'il y a sous le capot. Sous le capot, une des avancées les plus frappantes, c'est ne nécessite pas de démonter l'ordinateur, car cela tout simplement s'entend, du moins selon Guillaume, regardez sur Twitter. Le son, c'est vrai que le son est vraiment meilleur. Pour s'en rendre compte, regardez, on a un ancien ici modèle de MacBook Pro 16 pouces. Je vais me le rapprocher de mon micro. On
15 pouces.
Oui, vous m'avez compris, 15 pouces, autant pour moi. Et je lance la lecture, je ne sais pas si c'est perceptible en termes de qualité. Tiens, je t'en fais cadeau. Et je passe au... ne le jette pas, hein, quand même. Ça ferait de la peine à Oscar.
J'ai failli prendre par l'écran, ça t'aurait plu.
Et je vais prendre le 16 pouces qui vient d'arriver, le même morceau. Mmh. Écoutez bien. Mmh. Alors évidemment, en plateau, ça s'entend vraiment. Hein.
En plateau, ça s'entend vraiment.
Ah ouais, c'est grave.
En plateau, ça s'entend vraiment.
Alors messieurs, vous êtes à 1m50 de moi.
Non, c'est flagrant.
C'est flagrant. Super. Et c'est d'autant plus flagrant si vous faites un peu de jeux vidéo, ou si vous faites un peu de, si vous écoutez une vidéo sur Netflix, sur Apple TV+, hein, c'est compatible Dolby Atmos et c'est vraiment impressionnant en termes de rendu 3D.
Très bien ça.
Et c'est assez sympa. Donc, 6 haut-parleurs, hein, c'est ça Didier, contre 4 auparavant. Tu as noté aussi une différence ?
Ouais, ouais. Effectivement, c'est. Mais je disais par rapport au 2018-2019, où il y a eu déjà une belle amélioration, moi je trouve, au niveau du son.
Mais sur les générations précédentes, là, tu vois, quand je faisais le test, on le sentait vraiment, il vibrait l'ordi. Là, il ne vibre pas du tout, c'est étonnant.
Non, ils ont amélioré ça. Après, ce qui était rigolo, c'est d'entendre Apple qui t'explique un peu le positionnement, ça, en disant voilà, bon, on parlera du micro après, c'est un micro de studio, là, tu as des enceintes de bonne qualité. Bon, ceux qui font du monitoring, ils ont des enceintes de monitoring. Les gens, ils n'achètent pas ça pour regarder des films. Donc, c'est sympa sur une machine haut de gamme d'avoir toujours plus de qualité. Mais je pense qu'il y a, d'autres éléments, moi, sur lesquels j'aurais aimé qu'ils progressent, tu vois, sur l'écran, sur la qualité de la caméra. Et c'est étonnant qu'ils mettent de l'énergie sur la partie audio. Ce que je pense aussi, c'est qu'ils profitent un peu des technos qu'ils ont eu ailleurs, c'est-à-dire effectivement depuis qu'ils font beaucoup d'audio, bah ils disent tiens,
sur le
HomePod, etc. Ils arrivent avec des produits qui sont quand même avec beaucoup de techno dedans, et ben je pense qu'ils en font profiter le reste de la gamme, donc c'est du pur bonheur.
Les progrès sont aussi notables et les responsables d'Apple ont beaucoup insisté sur le côté son, mais du micro, qui est un micro, je cite, de qualité studio, voilà, qui est ambitieux comme terme. La firme d'Apple de Cupertino intègre 3 micros capables d'enregistrer vraiment selon une qualité studio qui serait vraiment taillée sur mesure pour des podcasteurs. Donc je vous propose qu'on fasse le test en gratteur, en essai dans le studio. Je vais enregistrer ma voix avec mon micro. Enfin, du moins, je vais essayer parce qu'on l'a branché sur le son du studio ici. On va voir ce que ça donne. On va lancer tout simplement QuickTime, nouvel enregistrement audio. Je sélectionne ici qualité élevée, le microphone, et on va faire un petit essai, tout simplement, de micro, et je vais dire tout simplement qu'est-ce que je peux dire.
Bienvenue à Refait le Mac.
Alors, on va dire ça. Bienvenue à Refait le Mac, le podcast qui parle d'Apple et tous les produits de la pomme. J'espère que le son est meilleur qu'auparavant sur le MacBook Pro 16 pouces.
On peut parler de loin aussi, voir si ça passe.
Voilà, et je vais appuyer sur Play en plateau, en régie. C'est parti. Bienvenue à Refait le Mac, le podcast qui parle d'Apple et tous les produits de la pomme. J'espère que le son est meilleur qu'auparavant sur le MacBook Pro 16 pouces. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, je me dirige vers la régie là-bas, il me fait comme ça, donc oui, c'est bon. La vraie question, Didier, j'imagine que tu as fait le même constat. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si les ventilateurs montent en tour, hein?
Bon, a priori, ils ont des technos qui baissent les ventilateurs quand tu fais des enregistrements. Par contre, voilà, si t'as Logic, si t'as GarageBand et tout, si tu mets beaucoup de pistes, des effets dessus, forcément, tu vas avoir la ventilation qui va tourner. Donc ouais, bon, de toute façon, tous ceux qui font du podcast, qui font de l'enregistrement, ils vont pas utiliser ça. Même il est mal placé, hein, par rapport à ta voix, c'est quand même loin. Mais c'est vrai que
c'est au niveau du clavier, hein, sur les haut-parleurs, sur le côté, hein, c'est
oui,
ça.
Oui. Mais pour ce qu'on fait là, par exemple, ça pourrait être assez sympa, d'autant qu'ils ont des technos maintenant pour éviter les systèmes d'écho, etc., qui sont assez bien. Moi, par rapport à un micro, même un petit micro-cravate, on est quand même pas au niveau, quoi. Voilà, il est trop loin, il est pas assez bien placé et tout. Dès que t'as de l'écho dans la pièce, ça s'entend quand même un peu. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre, en fait. Moi, je trouve ça cool.
Bon, on verra, on fera un enregistrement dans Refait le Mac avec.
Et... ouais, on essaiera d'utiliser son micro, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça, c'est assez pratique, ça rendra service quand on a besoin d'enregistrer un petit son comme ça en dernière minute. Réaction de T-Boog sur Twitter qui souligne l'amélioration de la ventilation, on en parlait. On peut ainsi utiliser son MacBook ailleurs que dans son bureau climatisé. Apple a également beaucoup insisté sur le nouveau système de ventilation. Tu le disais, la machine était assez extrême, Didier. Et désormais on est apte à faire circuler un tiers d'air supplémentaire et d'éviter la surchauffe qui posait problème, hein, sur les anciennes générations.
Oui, alors il y a eu un gros gap déjà entre les versions 2016 et 2019. Enfin, ceux qui ont eu les deux machines le savent. Les 2016, dès qu'il fait un peu chaud, t'as le truc qui est inutilisable. Alors que là, sur les dernières versions, c'est déjà beaucoup mieux. Moi, j'ai pas senti de différence en termes de bruit, en termes d'utilisation de ventilateur. Enfin, je trouvais que c'était quand même assez similaire par rapport à avant. On en parlera juste après. Il y a quand même des incidences sur, évidemment, sur les composants, voilà, qui sont un petit peu mieux refroidis.
Il y a une chose qu'il faut pas négliger, c'est que ces ordinateurs avaient tendance, hein, les générations de touch bar et les claviers papillons a beaucoup s'encrasser, parce qu'ils étaient très compacts. Il y a beaucoup de poussière qui se formait. Et on va voir si effectivement ils vont moins être tendance à s'encrasser, parce qu'effectivement ça joue aussi sur les performances, parce que la température monte plus facilement. Apple a agrandi donc les rotors et multiplié les pales des ventilateurs pour augmenter le flux d'air de 28%, on l'a dit. Plus de caloducs, des radiateurs plus de caloducs, des radiateurs qui ont été étendus. En clair, il peut encaisser jusqu'à 12 watts supplémentaires. Alors, il y avait une polémique il y a quelques temps. Souviens-toi, lorsque le MacBook Pro est arrivé, pas l'été dernier, mais il y a 2 ans, Didier, il fallait mettre le MacBook Pro dans un frigo pour obtenir les performances optimales. Il semblerait qu'Apple ait fait un effort de ce côté-là également.
Bon, c'est quand même une machine qui est compacte, donc faut pas non plus se raconter. Hein, voilà, c'est quand même une machine qui a des contraintes thermiques.
Est-ce que tu as vu le phénomène du ce qu'on appelle le frotting, le phénomène de bridage du processeur qui fait qu'il descend quand il chauffe trop en puissance?
Bien sûr, mais ça arrive aussi, je dirais, sur les machines de bureau, hein, comme les iMac. Dès que t'as des machines qui sont comme ça dans des environnements très fermés avec de la ventilation, t'as beau mettre les ventilateurs à fond, des fois ça ne suffit pas. Donc là, il y a encore ce phénomène, bien sûr, et là il est atténué. Il est atténué, je le disais déjà, ils ont fait des efforts les années précédentes, donc là c'est de nouveau le cas. D'ailleurs, nous on a fait des petits tests sur des programmes, par exemple, qui utilisent le CPU à fond, comme Logic Audio, hein, sur lequel on a un test avec plein de pistes et tout, et on est arrivé avec le même processeur, parce que Apple a pas changé ses puces, à avoir une quinzaine de pistes supplémentaires et à avoir les fréquences qui se maintenaient un petit peu mieux qu'avant. Donc il y a toujours ce phénomène où forcément t'es le turbo qui est à 5 GHz, tu vas pas l'avoir en continu, tu vas être autour de 3 GHz, même un petit peu moins, mais ils ont amélioré la ventilation, donc on gagne quelques MHz, mais ce problème reste récurrent, et de toute façon même les PC les ont, enfin c'est pas de la magie, quoi.
Ouais, alors des puces, parlons-en. Sur la reste des Core i7 ou i9 de 9e génération, on n'est pas passé à la 10e, hein. Ça reste gravé à 14 nanomètres, donc la même génération que les MacBook Pro précédentes. Donc on trouve un Intel Core i7 à 2,6 GHz avec 6 cœurs et un Intel Core i9 2,3 GHz avec 8 cœurs. Et il monte jusqu'à 2,4 GHz avec 8 cœurs, même jusqu'à 5 GHz en Turbo Boost. C'est la version ultime haut de gamme, on y reviendra en détail. Les changements sont beaucoup plus marquants, Didier, au registre des cartes graphiques et des GPU. Hein. C'est toujours signé AMD, on le disait dans le sommaire.
Oui, parce qu'on change de génération, donc là on est vraiment sur l'architecture, la toute nouvelle architecture donc, d'AMD, ce qui fait qu'on arrive à avoir des cartes qui, bah, par exemple si tu prends le bas de gamme de cette année, il est équivalent au haut de gamme en option des machines précédentes, donc c'est vraiment un beau gap, et nous on a reçu même la version la plus puissante, donc avec la 5500M, et puis c'est 8Go de mémoire, ça aussi tu peux mettre beaucoup de mémoire vidéo, alors pour tous ceux qui font du calcul 3D, de l'architecture, enfin qui ont besoin de beaucoup de mémoire comme ça, c'est assez utile, et effectivement les gains sont là, c'est-à-dire qu'Apple te dit c'est deux fois plus rapide que la 560X qui était proposée par défaut sur la gamme précédente, c'est 30% plus rapide qu'une Vega 20 qui était le modèle le plus haut de gamme. Donc en fait ce sont des cartes qui sont gravées plus finement, donc AMD peut effectivement faire un petit peu plus monter les fréquences. Le revers de la médaille, c'est que par rapport à Nvidia, on reste quand même sur des cartes qui consomment encore beaucoup d'énergie, qui chauffent aussi beaucoup, hein, puisque là on parle à peu près de 50 watts, ce qui est énorme dans un portable comme ça.
Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple ne réserve plus la carte graphique la plus puissante au modèle haut de gamme, hein, tu peux l'avoir sur l'entrée de gamme. Ça, c'est vraiment c'est la fameuse AMD Radeon dont tu parlais, la 5500M, hein, gravée à 7 nanomètres, donc ça va vite. Et ça, c'est nouveau en termes marketing, Monsieur X. Il avait tendance toujours à nous fourguer les meilleures configurations sur les modèles les plus chers. Y aurait-il une prise de conscience ? Apple a-t-elle reçu la lumière, Monsieur X ?
Je ne sais pas, mais en tous les cas, vu le prix de la machine, oui, ils font juste leur travail normalement. Donc voilà, ça fait partie des très bonnes nouvelles de la machine. Écoute, super, moi j'ai rien à rajouter de plus, je suis ravi, même si ça ne me concerne pas, je ne l'achèterai pas, mais oui. Ça fera plaisir à ces possesseurs qui ont besoin de ça.
Et toujours au registre de sous le capot, jusqu'à 64Go de mémoire, jusqu'à 8Tera de stockage, attention à la facture, hein, 8Tera de stockage, 2880€, et par contre, bon point encore une fois, la version de base, Laurent, Stéphane, d'habitude il y a 128 ou 256, là il y a 512. Hosanna, on y est enfin arrivé, ce qui amène une réaction quand même énervée de Elou sur Twitter. Pourquoi pas de caméra 1080p et de Wi-Fi 6, c'est assez scandaleux au tarif de ce MacBook Pro. Pour faire, on fait le Mac, clairement c'est pas taillé pour nous, hein, Didier.
Non, mais c'est dommage qu'ils aient pas. Bon, on n'a pas eu de nouveau processeur, on n'a pas eu de Wi-Fi 6, on n'a pas eu de nouvelle caméra.
C'est rien, c'est un composant ridicule. Hein.
C'est des composants, ouais, mais voilà.
Ça vaut quelques dollars. Hein.
Mais on en a discuté la dernière fois, la caméra de l'iPad.
Tout cet effet.
Meilleur que.
Mais j'ai l'impression qu'ils ont. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la machine de transition. Et puis, on va avoir les nouveaux processeurs Intel peut-être en mars-avril, qui vont être gravés plus finement, qui vont être plus rapides. La partie AMD, peut-être qu'il n'y aura pas trop de nouveautés, parce qu'ils ne progressent pas très très vite en ce moment. Donc, il va falloir rajouter des trucs. Ils se sont dit, bah voilà, c'est très bien, le Wi-Fi 6, la caméra 1080p. Et ça va frustrer un petit peu les gens. Là, moi, j'ai pas mal de réactions de lecteurs, là, depuis 2 ans. Les gens sont très frustrés, parce qu'ils attendaient, tu vois, comme l'Apple Watch, un petit peu, tu attendais, tu disais, tiens, la série 4, c'est bon. Et puis, hop, ils te mettent l'écran allumé, tu dis, oh non, c'est pas possible. Et voilà, bon, c'est voilà, mais il faut bien acheter à un moment donné, hein, tu vois.
Alors, dernier composant qui progresse et qui explique l'embonpoint et la prise de poids de près de 200 grammes, c'est la nouvelle batterie qui affiche une puissance à la hausse avec 100 watts au compteur. Et ce n'est pas un hasard, les 100 watts, messieurs.
Ouais, tout à fait. C'est en fait la puissance maximale autorisée par l'administration américaine des transports. Et donc, du coup, au-dessus de ça, ça ne passe pas.
On ne peut pas prendre l'avion.
On ne peut pas prendre l'avion, on le met en soute.
Ouais, ce qui est très pratique pour travailler.
Exactement.
Voilà. Bref, voilà, il faut apprendre à MacBook Air, hein, c'est très bien.
Ça dépend des pays. Dépend
voilà,
des pays,
donc en gros, Apple promet une heure de plus d'autonomie, soit au total 11 heures en lecture de film et jusqu'à 11 heures de surf sur le web en Wi-Fi. Alors, est-ce qu'il est vraiment plus puissant ? On va tenter d'y répondre avec des benchs. Alors, que donnent les premiers benchs ? Tu vas les commenter toi, Didier, puisque c'est toi qui les as fait, puisque tu as la machine depuis une semaine. Tu avais testé notamment sur les benchs que tu nous as fournis la version ultime, hein, la version Core i9, 2,4 GHz. Et ce qui semble tout simplement intéressant, c'est de les comparer avec l'ancien haut de gamme en 15 pouces, qu'on trouve encore d'ailleurs sur le Refurb.
Oui, alors contrairement à certains confrères américains qui ont vu des grosses différences sur ces logiciels de bench, alors le logiciel de bench il dure 20 secondes, donc ça, c'est vraiment le pic des performances, donc voilà, en fait ça représente quand même pas toujours grand chose, en plus il y a une pondération en fonction de ce que tu fais derrière, et moi j'ai pas eu de grosses différences, c'est-à-dire même des scores un petit peu moins élevés, tu vois, donc potentiellement ça ne changeait pas grand chose. Par contre, quand j'ai fait des tests, alors après pour ceux qui veulent aller voir, on a fait des vidéos puis des tests plus complets sur le site, mais sur des logiciels comme Logic, j'en parlais juste avant, sur Premiere aussi qui exporte, qui utilise beaucoup le CPU, là on voit des différences. Alors c'est pas 30% mais on arrive à vraiment avoir des belles différences avec la même puce, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle sur la partie CPU, hein.
Ouais. Donc Geekbench 4, tu le disais, peu de différences, hein, c'est assez proche et ça teste uniquement le monocœur et le multicœur, donc ça teste les puces. Hein, donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la configuration processeur reste la même, donc il n'y a pas forcément de gros écarts. En revanche, le gain est plus sensible dès que tu charges la carte graphique. Didier, ne fût-ce que dans Geekbench 4 sous métal, là on voit une envolée des performances qui est notable hein, entre le 15 et le 16 pouces.
Et oui Olivier, alors sur la partie GPU, là on a des vraies nouveautés, donc effectivement c'est normal qu'on ait des gains qui soient un petit peu plus sensibles. Alors là encore c'est très théorique, hein, Geekbench, voilà, un petit test métal, donc effectivement tu vois que c'est deux fois plus rapide qu'une 560X, tu vois que c'est à peu près 30% de plus qu'une Vega 20, donc c'est vraiment ce qu'on nous annonçait, donc il n'y a pas eu d'erreur sur la marchandise. Et puis en plus tu retrouves ces tests, là on a fait aussi des tests de jeux derrière, donc qui confirment à peu près ces performances théoriques, donc ça c'est une assez bonne nouvelle. Je rajouterais quand même quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que si tu testes indépendamment le CPU et le GPU, tu as effectivement des gains qui sont assez sensibles. Par contre, sur par exemple des jeux très récents qui utilisent le CPU et le GPU, donc qui font chauffer la machine hein, globalement, et ben là les gains sont beaucoup plus mesurés. Et je pense que c'est vraiment un problème thermique. C'est très difficile d'analyser ça parce qu'il faudrait des sondes un petit peu partout dans la machine et puis voir combien consomme chaque élément. Et Apple fournit pas ces éléments-là. Mais là, par contre, on a eu des jeux très récents où tu gagnais très très peu parce que effectivement la bécane elle chauffe. Et on a fait des tests de temps température, nous, avec des petits thermomètres là, électroniques, et tu t'aperçois qu'on monte autour de 42-44 degrés sur la coque, sur les deux machines, sur le modèle précédent aussi. Donc, ils n'ont quand même pas réglé ce problème de surchauffe. Hein.
Ouais, ça reste encore un peu extrême en termes de dissipation thermique. Je l'ai trouvé intéressant, c'est le test que tu as fait, les benches que tu as fait sous Cinebench pour le... j'imagine c'est le CPU, c'est l'affichage graphique hein, sur Cinebench, je dis une bêtise. Et on voit bien le positionnement, ça c'est intéressant à regarder. Pour le GPU, le MacBook Pro 16 creuse un écart quand même de 19 points sur la version 15 pouces. L'iMac 5K reste bien sûr en tête, avec un écart de 25 points cette fois-ci sur le MacBook Pro 16 pouces, mais l'écart est moins important. Mais après, sur la durée, tu as raison avec la nécessité de faire baisser en tour les GPU avec la dissipation de chaleur.
Oui, Cinebench, si je peux rajouter juste un truc, c'est un test OpenGL, donc c'est une vieille techno maintenant, ouais. C'est plus tellement géré, donc c'est pour ça que les écarts sont un petit peu plus réduits par rapport à Metal de Geekbench.
Mais d'une manière générale, on peut dire que les promesses semblent tenues par rapport aux arguments d'Apple, Didier, en termes des performances.
Oui, tu as le même processeur, mais il est plus rapide. Et puis, tu as des cartes graphiques qui sont plus puissantes. Et surtout, le prix, hein, vraiment, je crois que c'est comme le stockage. Là, le modèle de base, il a quand même un super GPU. On ne l'a pas encore testé. Mais pour ça, c'est vraiment bien cette année. Ils ont fait quand même un vrai effort là-dessus, quoi.
Alors, les prix, justement, habile transition, quel modèle choisir ? On en parle tout de suite. Prix et manque, réaction de Marcos Mac, Mac OS X, sur le compte Twitter de Refait le Mac. Ce que je préfère, c'est que pour la première fois, l'entrée de gamme est assez fournie sans devoir envisager de prendre une option en plus. On l'a dit, on peut se contenter de la capacité de stockage de base 512 Go, hein, c'est plus de 256. Donc en gros, à 2699 €, vous avez un MacBook Pro 16 pouces Core i7 6 cœurs à 2,6 GHz, 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage et une carte AMD Radeon 5300M avec 4 Go de mémoire. Voilà, et ça, c'est beaucoup plus puissant que les anciennes générations, et c'est moins cher, Didier.
Ouais, non, l'entrée de gamme est vraiment pas mal, c'est clair. Voilà, il n'y a rien à dire. Le stockage y est, la mémoire, elle est à 16 Go, tu as un super GPU, donc c'est vraiment une très très bonne machine. Après, c'est vrai que si tu fais de la vidéo, tout ça, moi je pousse quand même à prendre le 8 coeurs parce que t'as un vrai gain hein, quand même.
Il fait 200 € de plus à 2899 €, hein, celui voilà, avec les 9 coeurs, les 8 coeurs, le Core i9. Ouais.
Et puis même l'option pour passer à 1 Tera sur l'entrée de gamme n'est pas très chère non plus. Donc ouais, ça reste plus cher que le marché, mais ils ont fait des vrais efforts là-dessus. Donc voilà, si t'as un petit peu de budget, tu peux vraiment te faire une machine pas mal, on va dire voilà, à moins de 3 000 €. Quoi.
Alors, autour de 3 000 €. Et si tu prends la version ultime avec toutes les options, hein, la facture peut grimper jusqu'à 7 139 € pour la version toute option, avec un processeur qui peut atteindre donc en pointe les 5 GHz, 8 Go de mémoire graphique, 64 Go de mémoire vive et 8 Tera de stockage, 7 139 €. On n'est pas loin du prix du Mac Pro, mais passons. J'espère qu'il arrivera un jour. Dernière question, parce qu'on vous aide souvent à nous poser cette question justement. Dernière question que vous vous posez, c'est de savoir s'il vaut mieux acheter un produit neuf de nouvelle génération d'entrée de gamme ou reprendre une machine de dernière génération avec une gamme un peu plus élevée sur le Refab Store, Didier.
Oui, bon, là, il y avait cette histoire de clavier, donc effectivement, tous les 2016, 2017, même 2018, moi, je les déconseille quand même pour ces raisons-là. Par contre, c'est vrai qu'en 2019, tu as quand même des bonnes machines, les claviers ont l'air quand même un petit peu mieux, tu avais les 6 cœurs, 8 cœurs. Voilà, moi je trouve que c'est quand même des bécanes qui restent très très correctes. Même moi, tu vois, là j'ai un modèle de 2018 avec 6 cœurs. Aujourd'hui, il tient parfaitement la route. J'ai fait changer mon clavier, donc j'ai du coup un clavier 2019. Ben voilà, il y a plus trop de soucis à avoir sur ce genre de bécane. Il n'y a pas tant de nouveautés sur la nouvelle génération finalement, quoi.
Alors les manques, un manque chacun si possible. On commence avec peut-être avec Laurent, après Stéphane et Monsieur X.
Moi j'en ai deux, SD et écran tactile.
Ah, enfin, je ne suis pas tout seul. Stéphane qui lève les épaules. Oui, écran tactile. Oui, on veut un écran tactile. Stéphane, je suis d'accord. Bravo, monsieur Laurent.
C'est toi une surface. Je sais pas. Oui. Non, mais moi, c'est vrai que moi, la webcam, maintenant qu'on. Moi, quand je tourne, on fait le Mac, je suis obligé de rajouter la petite caméra sur un.
Une caméra Logitech en plus, voilà, parce que l'image est bruitée. Ouais.
Voilà, pour qu'on ait un bon, une belle image. Et un bon son. Voilà,
Il suffirait d'avoir le même
exactement,
capteur.
Exactement, c'est sûr que la caméra, pour moi, c'est
ouais,
un.
Sur l'iPad.
Ouais. C'est vrai que Wi-Fi 6, ça paraît aussi aberrant, parce que bon, on a. Voilà,
on a fait une émission au mois de juin, ouais. Où les bornes, Wi-Fi 6 est arrivé déjà, on est presque au mois de décembre.
Alors après, c'est vrai que. Moi, pour les ports, moi, je suis peut-être. Moi, j'ai
tu
mes.
Tu manges pas de porc.
Mange pas de porc, toi.
J'en mange pas. Déjà, j'en mange pas. Mais simplement, 4, pour moi, c'était. Je partais tellement loin avec le 1 seul du MacBook que 4, pour moi, déjà, c'est le. Donc voilà. Donc, mais ça veut, je peux comprendre que ça pose un problème.
Monsieur X, un manque qui vous permettrait de succomber au charme de ce 15 pouces.
16.
Bon, alors 16, plutôt, ouais, 16 pouces. Plutôt que d'avoir tes vieux fantasmes, je vais absolument mettre.
Je l'aurai un jour, mon écran tactile.
Sur l'écran, ce qui sert à rien pour une machine comme ça qu'à l'abîmer. Siegfried Schiller. Ouais, moi, je vais te parler aussi d'écran.
Siegfried Schiller, ouais.
Voilà, on est sur une machine pro, donc en usage nomade, en termes de manque, je la compare à ce qu'on va avoir avec le MacBook Pro, il y a des trucs essentiels, tout le CPU et le GPU, la mémoire et le stockage, et puis l'écran. Et quand tu regardes l'écran, hormis ça a été dit, c'est pas les dernières technologies qu'on a sur cet écran et les dernières résolutions, il y a un truc que moi j'attendais beaucoup, je me fais le relais de mes amis qui sont des vrais professionnels de l'utilisation du Mac, ce qui n'est pas mon cas, c'est un écran sans bord. Donc sur mon MacBook Pro 15 pouces, j'ai une grande bande noire d'un centimètre et demi, là on a gagné un petit peu, on en a parlé, mais il reste grosso modo au moins 5 mm de vide à droite et à gauche et 1 cm en haut et en bas. Quand est-ce qu'Apple va nous faire un écran où toute la surface utile du châssis va être mise à disposition de l'utilisateur. Donc un écran sans bord qui vient à ras du châssis. Moi, ça, c'était ma grosse attente et c'est ma très grosse déception.
Ouais. Et moi, je suis un vieux indécrottable de l'esprit et l'ADN du Mac. Moi, ce qui me manque, c'est le retour du bip de démarrage. Moi, je ne sais pas comment ma machine redémarre si l'écran est allumé. Moi, ça me manque beaucoup. Les nouvelles générations chez Apple nous disent mais c'est beaucoup mieux. Bon, avant, quand on démarrait un Mac dans un amphi, tout le monde était au courant, mais c'était l'ADN du Mac. Voilà, c'est tout ce qui différencie un PC d'un Mac. S'il n'y a plus le bip, c'est plus un Mac. Donc remettez-nous le bip du démarrage. Et puis accessoirement, peut-être Didier, moi ce que je trouve, ce qui manque aussi sur ces machines, c'est juste une petite LED pour dire que la machine est en train de charger, non?
Ouais, on s'était bien habitué à ces petits trucs, même la pop qui s'allume, on est un peu nostalgique de tout ça. Moi quand même, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais c'est une machine qui s'adresse énormément aux photographes, aux métiers créatifs, à la vidéo. Et pas d'écran 4K, pas de port SD. Même, tu sais, en entreprise, si tu fais pas de photos et de vidéos, tu bosses en entreprise. La vieille blague avant que Apple mette du HDMI sur ses Macs, c'était « Ah, t'as pas ton adaptateur ». Eh ben, on est revenu à ça maintenant. Dans toutes les boîtes, là, tu te balades avec les derniers Macs. S'ils n'ont pas l'adaptateur, ils sont foutus. Alors, ça va changer, hein, parce que les vidéos proches et tout commencent à être équipées du USB-C, mais c'est encore timide. Il y a encore plein de vidéos proches qui ont encore même des vieilles connectiques. Mais tout le monde avait du HDMI. Enfin, c'était devenu la connectique standard. Donc, ouais, c'est quand même dommage. Et quand tu regardes les vidéos de tous ces YouTubeurs, de tous ces graphistes, de tous ces gens qui travaillent avec des appareils photo tout le temps et des caméras, oh là, le port SD, quoi. Qu'est-ce qu'on le regrette?
Voilà, j'essaie de vous mettre le bip, j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Dernier point, tu parlais de Microsoft tout à l'heure, on va t'acheter une Microsoft Surface. Il y a un point quand même qui est remarquable sur la nouvelle Surface Book de Microsoft, c'est qu'on peut changer des composants. Ça reste encore compliqué, c'est moins qu'on puisse dire, sur le MacBook Pro. Quand on connaît, monsieur, on va peut-être poser la question à Monsieur X, puisque c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, qu'Apple veut se montrer irréprochable en matière de recyclage et d'attitude verte, dirons-nous, et écolo. Est-ce qu'ils peuvent rester sur ce créneau-là et de continuer à faire des machines qui sont totalement fermées, on ne peut pas changer les composants? L'air du temps, c'est de dire qu'une machine doit pouvoir être certes recyclée, mais améliorée, et donc on consomme moins et c'est bon pour l'environnement.
Ouais, je crois que effectivement c'est le caillou dans la chaussure d'Apple sur, on va dire, leur empreinte carbone en général. Ils font beaucoup d'efforts sur le packaging, sur l'énergie qu'ils utilisent chez Apple. On a vu sur le MacBook Air, je crois qu'ils ont dit que c'était la première machine de chez Apple avec le dernier MacBook Air dont le châssis était à 100% en aluminium recyclé. Donc ça progresse. C'est sur la conception vraiment des produits. Maintenant, sur la durée de vie, eux, ils misent tout sur la fiabilité et ton Mac doit durer, moi je sais ma durée moyenne d'utilisation, 5 ans. Par contre, cette idée d'économie circulaire où on peut passer, revendre son Mac, le passer à quelqu'un de sa famille, le réparer, l'upgrader, ça ils le font pas. Mais ils se heurtent, je pense pas qu'ils ont été dogmatiques là-dessus, je pense qu'ils le sont plus. Je pense en revanche qu'ils se heurtent à quelque chose qui est la conception du châssis. Regardez ce châssis, regardez à chaque fois les films qu'on a sur l'intérieur de la machine quand ils les lancent. Et comment sont conçues les machines. C'est un châssis sous forme de lingot usiné. Mmh. Si tu laisses quelqu'un ouvrir ça, iFixit vide ça, ils peuvent en faire les gorges chaudes, mais leurs gorges chaudes. Mais même si tu donnais les moyens à quelqu'un comme moi d'ouvrir cette bécane, vu la technologie et la conception utilisée pour faire cette bécane, on n'a pas l'outillage pour le réparer.
Non, j'entends bien, mais on pourrait au moins changer, pourquoi souder les barrettes mémoire, pour souder les SSD, je veux dire, au moins laisser la possibilité à des revendeurs, à des spécialistes, à des hommes de l'art de pouvoir interchanger des...
Parce que 99% des gens ne changent jamais leur disque dur, ne changent jamais leur batterie, ne rajoutent jamais de RAM.
Oui, et puis tu sais, ça viendra peut-être, on a vu le mouvement aux États-Unis sur les iPhones. Ça y est, de nouveau, les réparateurs de téléphones peuvent aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, acheter des composants batteries originaux Apple et faire leur proposition de service, même s'ils ne sont pas réparateurs agréés. Donc ce mouvement, il commence un peu à arriver aux US. Chez Apple, peut-être qu'ils vont l'étendre au MacBook, mais sur une bécane comme le MacBook Pro, la réparabilité, sincèrement, c'est absolument pas leur priorité, c'est plus la fiabilité, et je pense que c'est ce que recherche un MacBook Pro,
un utilisateur
Pro, surtout s'il a vécu les problèmes de la génération précédente.
Hein. Merci Monsieur X, et écoutez... Voilà, il est de retour le bip, mais c'est indispensable ce bip. Remettez-moi ce bip Apple, s'il vous plaît. Allez, on passe à vos coups de cœur. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur le MacBook Pro 16 pouces, de vous refaire un test plus sur le long cours dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Il faut un peu de recul et voir surtout si les problèmes de fiabilité que vient d'indiquer Monsieur X vont survenir. Il faut du temps et ça ne s'improvise pas en quelques heures. Malheureusement, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Monsieur X.
Alors, tu as dévoilé un petit peu mon coup de cœur de cette semaine. C'est effectivement un casque. moi, j'en achète pas souvent des casques. C'est pas trop mon truc. Mais j'ai donné à une de mes filles mon Bose précédent. Donc, j'ai voulu me faire plaisir. Je suis resté chez Bose et j'ai acheté le nouveau haut de gamme qui est sorti il y a quelques mois, qui est un supra-auriculaire à réduction de bruit, qui est le Noise Cancelling 700. Et je dois dire qu'il y a, entre la génération précédente que j'avais et celle-ci, il y a un saut, vraiment un saut quantique. Moi, j'ai plus mal avec l'arceau. J'avais mal avec le précédent. L'arceau me faisait mal à la tête. La réduction de bruit, j'aimais bien, mais il n'y avait pas de niveau de réglage. J'ai maintenant un niveau de réglage extrêmement fin et puis c'est extrêmement efficace. Alors, ce produit est un petit peu cher. Moi, je l'ai payé 349€. Mais pour 349€, c'est-à-dire pas tellement plus cher que les AirPods Pro, on a un produit quand même super haut de gamme et qui est supra-auriculaire, qui embrasse l'ensemble de l'oreille. Alors, vraiment un plus très particulier, quand tu le recharges, et c'est pas du pipeau, hein, après 3 mois d'utilisation, je le confirme, tu as jusqu'à 20 heures d'utilisation. Donc ça, c'est génial. Deux tout petits reproches ou axes d'amélioration pour Bose, leur application qui est quand même bien pourri, avec la mise à jour du firmware qui n'est pas dans l'application iPhone, mais sur une espèce d'application sur macOS. Ouais. J'ai toujours pas compris comment ça marche. Et puis alors,
mise à jour, monsieur X, hein, qui est entre-temps. Ça y est,
on dit que Siri n'est pas un bon assistant vocal et talala, mais alors, écoutez la voix de synthèse qu'ils ont mis dans le casque pour vous parler quand vous connectez le casque Bose, on dirait Nono le robot dans Ulysse 31 il y a 35 ans. Mais je veux dire,
du moins de 40 ans chez... ne veut pas connaître.
Ouais,
voilà.
Bon, attends, soyez pas chien chez
Nono le robot.
Attention,
hein, dans
le casque Sony, la voix, on est plutôt dans un
dans un autre trip.
Ouais, dans un autre trip, vraiment. Hein.
Bref, merci Monsieur X. Dis à ton côté ton coup de cœur cette semaine.
Alors écoute, je vais faire un peu de concurrence à Stéphane. Pour une fois, je vais te présenter un livre. Je
pense tiens.
Que tu l'as déjà eu. Mmh. Donc c'est le livre de la fille de Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs, donc, qui a été traduit en français, donc est sorti là il n'y a pas très longtemps. Donc moi je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Vu que je ne m'appelle pas Stéphane, je ne l'ai pas encore lu entièrement, évidemment. Mais j'étais assez amusé de la voir sur... Parce qu'elle est venue en fait en France, donc sur les plateaux télé. Et c'était assez drôle de voir toute la presse qui voulait absolument faire passer Steve Jobs comme quelqu'un d'extrêmement froid, et qu'on n'avait absolument rien à faire de ses enfants, et elle était beaucoup plus tempérée là-dessus. Et d'ailleurs, ce qu'elle raconte dans le livre, moi j'ai commencé un petit peu à lire, c'est effectivement son histoire personnelle qui est très compliquée, et il y a vraiment du bon et du moins bon, je dirais, comme un petit peu avec tous les parents. Donc voilà, je pense que si vous avez aimé Apple, si vous avez aimé Steve Jobs, je pense que c'est intéressant pour comprendre, si c'est possible, un petit peu mieux l'ancien CEO d'Apple.
Oui, elle a été, pour en avoir discuté avec son agent et son éditeur en France il n'y a pas très longtemps, très heurtée par effectivement l'attitude de pas mal de surtout en télé, qui sont rentrés dedans en disant en gros que c'était un père radin et un père qui ne s'occupait pas de ses enfants. C'est un peu réducteur, hein, évidemment, on l'a déjà dit dans cette émission. Et j'espère qu'il nous fera l'amitié d'accepter notre invitation, parce qu'elle est invitée cordialement dans Refait le Mac. En fait, bientôt nous 10 ans, ce serait un beau cadeau. Stéphane, en plateau, ton coup de cœur.
Ah, ok. Non, je pense que ça va être Laurent.
Mais non, c'était un piège.
Ah bah très bien. oui, en effet, j'ai deux coups de cœur rapidement cette semaine.
Moi et...
Ah, c'est ton coup de cœur,
voilà,
Laurent.
Voilà. J'ai un livre, donc c'est le deuxième livre de Michael Launay qui s'appelle Le théorème du parapluie aux
Attends,
éditions.
Tu l'as pas lu, il n'est pas corné, il n'est pas abîmé. Attends.
Mais tu sais quoi, je vais te dire, je lis mes livres sans les abîmer. Et quand tu prends l'avion ou je ne sais quoi, tu sais que ça a 2 heures devant toi ou 3 heures devant toi, tu peux le lire en entier.
D'accord.
C'est la prochaine fois que tu vas en Corse, peut-être.
Tu reviens de week-end ensoleillé.
Voilà, si tu veux, tu continues à affirmer ce que tu veux. Donc on a, c'est le théorème du parapluie. Donc c'est le grand roman des maths qui était sorti il y a quelque temps de cela. Ce livre-là, c'est un peu une sorte de décryptage, même pour les non-scientifiques, qui est vraiment très intéressant, où il y a il est en 50 parties, avec chaque fois un objectif pour comprendre une idée dans l'histoire des sciences. Par exemple, la première partie, c'est des choses qui sont ultra familières, qui sont liées, par exemple, à notre quotidien, par exemple, quand on fait nos courses dans un supermarché. Pourquoi aujourd'hui on met certains prix et pas d'autres,
ouais.
Et c'est passionnant.
D'accord.
Et vraiment, c'est un livre qui se lit très rapidement.
Comme un roman,
et je vous encourage à le lire. Le théorème du parapluie aux éditions Flammarion de Michael Launay. Et donc j'avais un deuxième coup de cœur qui est très rapide, qui est un petit film unitaire sur Netflix qui s'appelle... Donc là, il faut que je le lise parce que sinon je vais l'oublier.
Tu l'as à l'écran, regarde.
Ben non, tu l'as enlevé.
Non, il est là.
Ah oui, c'est vrai, La formidable envol de Moti Valkenbruch, je vous le dis. Donc, Formidable envol de Moti Valkenbruch, qui est un film allemand
qui dure
1h30, 1h40, je ne me souviens plus. 1h40, mais il est passé très très vite. Et il y a une petite partie à Tel Aviv, c'est pour ça que je l'aime bien.
Voilà.
Mais surtout, ça vous donne envie du soleil. Ça vous donne du soleil alors qu'il fait très froid.
Faire une mission en Corse, hein, Laurent, c'est plus possible.
Ça, non, à Tel Aviv, ça va être bien.
Faire en Corse. Laurent, ton
alors
coup
Alors moi,
de cœur.
J'ai mon coup de cœur, c'est un câble qui s'appelle Oco. Alors pour être tout à fait sincère, je n'avais entendu parler, mais je ne les avais jamais testés. Et dans les commentaires de l'émission précédente qui était sur les batteries, on a quelqu'un qui a dit « Oui, mais les câbles Oco permettent de gérer la charge. » Et du coup, ça a titillé mon intérêt. Donc du coup, je l'ai commandé. Alors le point positif, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Ça vaut, je crois, 11 euros sur Amazon. Et c'est assez original. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes le nombre d'heures d'étalement de la charge. Donc typiquement, ça serait l'opposé de l'intelligence artificielle, la soi-disant intelligence artificielle d'Apple. Donc tu peux programmer en disant, je vais dormir en 9 heures, charge-moi mon téléphone en 9 heures, et du coup il adapte l'intensité de la charge pour les 9 heures. Ça c'est le côté positif.
Faut pas stresser sa batterie.
Exactement. Le côté négatif, c'est que en France, il n'est disponible qu'en USB-C. Il n'est pas disponible en Lightning, alors qu'il est disponible en Amérique du Nord. Enfin, je ne l'ai pas trouvé en France, ce truc. Donc du coup, je charge mon iPad avec, et c'est assez marrant. Voilà.
Voilà, donc, et puis
Et surtout, c'est un auditeur qui nous l'avait recommandé, donc je trouvais que c'était. J'aime beaucoup les échanges avec les auditeurs, du coup, je trouvais que c'était intéressant d'aller tester et de découvrir quelque chose.
On essaiera la semaine prochaine de vous faire une sélection élargie d'accessoires, si possible pas trop cher, puisqu'on prépare les émissions de Noël. Mon côté, regardez mon coup de cœur. C'est le dernier né de la gamme Lassie, c'est inexclu, on fait le Mac, le Rugged SSD Pro de Lassie, hein, c'est le dernier né de la gamme Rugged de Lassie d'habitude se caractérise par des bumpers, vous savez, en caoutchouc orange, celui-ci est noir, hein, il est toujours tout terrain, mais pourquoi il est noir? Parce que c'est une version Pro équipée d'un port Thunderbolt 3 et qui lui permet d'afficher des débits jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde. Hein, c'est du sur-mesure pour le MacBook Pro 16 pouces. Regardez, il est tout petit, il se met à côté. Il est tout terrain. Vous l'avez en 1 ou 2 Tera, 2800 mégaoctets par seconde. On peut vraiment travailler sur un disque externe en 4K ou en 8K dans Final Cut. Et ça coûte à partir de 480€ pour un disque dur qui va presque aussi vite qu'un disque interne. C'est la fin de ce 353e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre spécial coup de cœur de Noël. Plein de gadgets, plein de produits à poser au pied du sapin. Soyez au rendez-vous. J'attends vos listes, messieurs.
Elle est prête.
Vous serez au rendez-vous.
Ah oui.
Didier, Monsieur X, on compte sur vous.
Il paraît que le canapé sera confortable.
Le canapé sera confortable dans un décor de circonstances. Merci beaucoup, Monsieur X. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également la petite cloche pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.